le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Questions et réactions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Bonjour et bienvenue Éric Dupond-Moretti.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter ce matin alors que démarre une journée de mobilisation du monde de la justice concernant magistrats, greffiers, avocats. À l'appel de 17 organisations syndicales, il y aura aujourd'hui des rassemblements dans les juridictions et une manifestation à Paris devant le ministère de l'économie. La vague d'indignation qui s'est soulevée fin novembre avec la publication d'une tribune dans Le Monde n'est pas retombée. Les personnels dénoncent le manque de moyens de la justice, ils disent aussi leur désespérance. Qu'avez-vous, Éric Dupond-Moretti, envie de dire à ces femmes et à ces hommes ce matin alors qu'ils s'apprêtent à manifester ?
D'abord que je les ai écoutés et que je les ai entendus. Ils expriment effectivement des difficultés qui sont les leurs au quotidien, avec des mots très forts, puisque l'on parle de souffrance au travail, et que même, vous l'avez rappelé d'ailleurs, des auditeurs de justice qui ne sont pas encore magistrats et qui ne sont pas encore rentrés dans le monde du travail, mais qui craignent pour leur avenir, ont signé pour un certain nombre d'entre eux cette pétition. Et puis il y a la question récurrente des manques de moyens. Mais ce que je veux dire, c'est que pour examiner objectivement et avec un peu de recul cette situation, il faut savoir d'où nous venons, ce que nous avons fait et ce que nous pouvons faire. Et ce triptyque, me semble-t-il, il est indispensable à notre réflexion.
Vous allez nous dire et vous allez détailler vos mesures, ce que vous avez pris, ce que le quinquennat, le bilan de ce quinquennat Macron sur la justice. Mais tout de même, cette tribune du Monde, pour que les auditeurs et les auditrices comprennent bien l'ampleur, si vous voulez, de cette mobilisation aujourd'hui des personnels de justice, cette tribune du Monde a été signée par plus de 5500 magistrats, c'est-à-dire deux tiers des magistrats du pays, par plus de 1500 fonctionnaires de greffe, près de 500 auditeurs de justice. Même les magistrats de la Cour de cassation, qui sont connus pour leur discrétion légendaire, Éric Dupond-Moretti, ont voté une motion évoquant une justice exsangue. D'abord, est-ce que vous avez été surpris par le nombre de personnes qui ont signé cette tribune ? Est-ce que je crois que c'est du jamais vu. Est-ce que vous avez été surpris par cette lame de fond ?
Ce qui me surprend pour dire les choses, c'est le moment où intervient cette contestation. Parce que il y a 20 ans d'abandon. Abandon humain, abandon budgétaire de la justice. Est-ce que vous vous rendez compte, pardon, mais sur la question de l'informatique, qui est une des questions mises en avant par les signataires de cette tribune. Est-ce que vous imaginez, Madame Salamé, que quand nous sommes arrivés, au début du quinquennat, il n'y avait pas, entendez-moi bien, de Wi-Fi dans les juridictions. Nous l'avons fait.
Aujourd'hui, il y a du Wi-Fi dans toutes les juridictions ?
Il n'y avait quasiment pas de fibre optique. Nous l'avons fait. Nous avons doté 100% des magistrats d'ordinateurs portables et les cadres ont eu un téléphone, un smartphone. Ils ne l'avaient pas. C'est pour vous dire l'état de dénuement, de clochardisation, a dit Jean-Jacques Urvoas, dans laquelle se trouvait la justice en 2017.
Mais vous dites, je suis surpris par le moment de cette pétition. Oui. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, vous dites, et on le redit ce matin, c'est-à-dire l'état de délabrement de la justice ne date pas effectivement du quinquennat, ça c'est certain. Mais vous dites quoi ? Vous dites, nous on a fait des choses, et en gros, pourquoi vous protestez ? C'est ça, si je comprends ce que vous
nous
dites ce matin ?
Non, je sais pourquoi les magistrats, les greffiers, les personnels protestent. Les avocats également. Mais sous Madame Taubira, garde des Sceaux, on a des budgets de l'ordre de 1%. On n'entend pas de contestation. Sous la droite, quand Madame Pécresse est au gouvernement, les magistrats qui partent à la retraite ne sont pas remplacés. Nous avons créé 650 postes de magistrats supplémentaires. 750 postes supplémentaires de greffiers. Le budget que j'ai obtenu à Bercy, où les magistrats vont manifester aujourd'hui, Ce budget, c'est deux budgets historiques de plus de 8%. Et d'ailleurs, quand le premier budget a été voté, vous vous en souvenez, beaucoup disaient, mais c'est un fusil à un coup. L'année prochaine, on ne sera pas là. On était au rendez-vous. D'abord, nous avons atteint les objectifs de la loi de programmation justice. Nous l'avons dépassé. Mais quand j'ai dit ça, il faut évidemment que l'on envisage, dans ce triptyque que j'évoquais tout à l'heure, ce que nous devons faire encore.
Un mot dans le sillage de la question de Léa. Vous l'avez dit ce matin à ce micro, vous entendez le mal-être exprimé dans le monde de la justice, mais vous avez aussi mis en garde contre les arrière-pensées et les tentations d'instrumentalisation dans un contexte pré-électoral. Qui visez-vous dans cette phrase et pensez-vous que ces magistrats, ces personnels sont manipulés et font de la politique en fait?
Quand Madame Taubira était garde des Sceaux, le syndicat de la magistrature, par exemple, était représenté à tous les étages de la chancellerie. 1% de budget, pas une contestation. Moi, j'espère, écoutez, qu'il n'y a pas d'instrumentalisation, mais je ne peux pas l'exclure. Il n'a échappé à personne que nous sommes en période préélectorale. Et moi, je dis, je vous redis, et je dirai encore, avec toute la passion qui est la mienne, que les états généraux ont été conçus pour améliorer la justice de notre pays. Et que le boycott a priori, le nihilisme, est insupportable. Parce que les états généraux ont été faits pour nos concitoyens et pour la justice.
Donc vous nous dites ce matin clairement que vous craignez une manipulation de ces magistrats et que vous craignez que ces magistrats fassent aujourd'hui, avec cette mobilisation, pour beaucoup d'entre eux, de la politique, c'est ça ?
Je vous ai dit,
soit politisé.
Je vous ai dit, et je ne peux que vous le redire à cet instant où vous me reposez la question sous une forme différente, que j'espère qu'il n'y a pas d'instrumentalisation, mais que je ne peux pas l'exclure. Voilà ce que je dis.
Dans cette tribune qu'on a mentionnée, on peut lire « Nous, juges aux affaires familiales, sommes trop souvent contraints de traiter chaque dossier de divorce ou de séparation en 15 minutes et de ne pas donner la parole au couple. Nous, juges des enfants, en sommes réduits à renouveler des mesures de suivi éducatif sans voir les familles. Nous, juges correctionnels, devons choisir entre juger à minuit des personnes qui encourent des peines d'emprisonnement ou décider de renvoyer des dossiers, par exemple, de violences intrafamiliales à une audience qui aura lieu dans un an. » Que dit le ministre de la Justice à ce tableau tout de même sombre, très sombre, de la justice au quotidien ?
Que l'une des difficultés, c'est la surcharge de travail, la répartition du travail, ce que l'on appelle la clé de fonctionnement en termes technologiques. Pour partie, il est dû au stock. Alors je vais expliquer pour les auditeurs ce que c'est que les stocks, mais ils l'ont déjà compris, c'est les dossiers en attente. Et de façon endémique, les stocks se sont accumulés. Il faut régler cette question. J'ai demandé au président du tribunal judiciaire de Bobigny qu'il fasse un véritable travail. Ce travail est finalisé, il est désormais à disposition de toutes les juridictions. Mais naturellement, ça ne suffit pas. J'ai rendu public lundi dernier un travail de l'inspection générale de la justice, composé, comme vous le savez, de magistrats totalement indépendants. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'un tiers des stocks sont dus, en première instance, au manque de moyens. Ça signifie, Madame Salamé, Monsieur Demeurant, que deux tiers des stocks, c'est pour d'autres raisons.
Alors c'est quoi les autres raisons ? Vous dites c'est plus un problème de management qu'un problème de manque de moyens, c'est ça le problème ?
On y vient, je voudrais terminer mon chiffre en appel. 10% des stocks sont dus au manque de moyens, que je ne conteste pas. Et donc 90% des stocks sont dus à autre chose. C'est quoi ?
C'est quoi ?
C'est répartition du travail, c'est management. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai mis en place un outil permettant de mesurer le nombre de magistrats dont nous avions besoin. Cet outil, il faut 3 ans et demi, dit la Cour des comptes, pour le créer. Je veux accélérer le rythme et je veux naturellement que nous ayons cet outil à disposition pour savoir précisément de combien de magistrats, de combien de greffiers nous avons besoin.
De combien ? Vous avez les chiffres ?
Alors, justement, non. Et l'Allemagne qui a mis en place cet outil, l'Allemagne qui est toujours prise en exemple, a mis 4 ans pour le créer. Mais je veux finir sur cette question des difficultés. Bien sûr qu'il y a les moyens, mais pas que les moyens. Il y a la perte de sens qu'évoque cette tribune. Il y a aussi bien sûr des questions managériales. Moi, Madame Salamé, je vais vous dire, je suis tout à fait prêt à accepter de regarder les choses en face. On a tous des responsabilités. On nous reproche, par exemple, l'inflation législative. Mmh. Ah, responsabilité du gouvernement, ma responsabilité, celle du Parlement qui peut-être vote trop de lois. Et d'ailleurs, dans les États généraux, on va simplifier la procédure pénale et la procédure civile. Mais je veux que tout le monde prenne ses responsabilités. Chef de cour, chef de juridiction également sur ces questions, avocat. C'est vrai que dans les stocks, par exemple, il y a la question de la grève des avocats, qui a été objectivée par le rapport de l'inspection générale de la justice. Les magistrats disent aussi, dans notre surcharge de travail, il y a des écritures qui sont présentées par les avocats qui sont trop longues. Moi, je mets toutes ces questions sur la table, sans aucun tabou. On est tous dans la même barque. Et le souhait, c'est que on améliore l'institution judiciaire dans son fonctionnement quotidien. Mais il faut évoquer ces choses, et il faut regarder ces choses avec lucidité et responsabilité.
Alors, pour comprendre le tableau, comparons-nous. Selon la Commission européenne, en 2018, la France consacrait 70 euros par habitant à la justice, contre 131 euros en Allemagne, 93 euros en Espagne. On a deux fois moins de juges en France que dans les pays voisins, trois fois moins de procureurs. Estimez-vous que l'augmentation du budget de la justice dont vous avez parlé tout à l'heure est suffisante pour rattraper un tel retard? Et si oui, à quelle échéance?
D'abord, si vous me le permettez, un petit mot sur ce rapport. Ce rapport, il date de 2018. Oui. Et en 2018, le budget, il était ce qu'il est. Il est aujourd'hui en augmentation de 25%. Et ce rapport, il est obsolète. Et deuxième bémol, qu'apporte la Cour des comptes, pas le ministre de la Justice qui est devant vous, la Cour des comptes, c'est de dire, on ne peut pas comparer raisonnablement avec l'Allemagne, par exemple, parce que, d'abord, en Allemagne, les magistrats sont tous des professionnels, il n'y a pas de conseil des prud'hommes, il n'y a pas de tribunaux de commerce, vous savez que ce sont des juges non professionnels. Et deuxièmement, dit la Cour des comptes, le droit génère des besoins en magistrats qui ne sont pas les mêmes, selon que l'on est dans un droit germanique, anglo-saxon, ou napoléonien.
Mais j'entends bien, mais si on augmente de 25% ces 70 euros par habitant, on reste inférieur au niveau de l'Espagne, par exemple. Si vous ne voulez pas qu'on se compare à l'Allemagne, on reste inférieur dans notre budget au niveau de l'Espagne, qui n'est pas un pays plus riche que nous, sur le budget consacré à la justice par habitant.
Madame,
même si on rajoute l'augmentation du budget.
Madame Salamé, le budget, ça n'est pas un puits sans fond. Le budget justice, en pourcentage, il a augmenté davantage que le budget du ministère de l'Intérieur et du ministère des Armées. En 5 ans, quinquennat Emmanuel Macron, nous avons obtenu et nous avons fait en termes budgétaires ce que la gauche et la droite, en 10 ans, ne sont pas parvenus à faire. Pardon de vous dire.
Éric Dupond-Moretti, vous avez raison, vous avez augmenté nettement le budget de la justice, je veux le dire ce matin. Mais puisque vous êtes dans les chiffres et que les chiffres sont têtus, vous dites on a augmenté de 30% le budget de la justice, vous dites ça aux magistrats et aux greffiers. Mais pour être précis, la majorité de cette augmentation va pour la construction de places de prison. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Et ce qui reste en augmentation pour les magistrats, c'est pas rien, mais c'est 18%, c'est pas 30%.
J'entends bien madame, mais que m'auriez-vous dit si je n'avais rien fait pour construire des places de prison? Nous en construisons 15 000. Ça assure la réponse pénale, ce que j'assume. Ça assure la sécurité du personnel pénitentiaire, qui travaille dans des conditions de grande difficulté, et je veux penser à eux également ce matin. Et puis, ça assure la dignité dans les prisons. Il n'y a pas un magistrat de ce pays qui est insensible aux conditions de détention et à la dignité que l'on doit aux détenus, parce que cette dignité, elle permet en réalité d'envisager mieux la sortie de la délinquance et donc de mieux traiter la question de la récidive.
Allez, on se dirige au standard de France Inter. Énormément d'appels ce matin. La parole pour commencer, puisque vous me donnez votre nom de famille, à Manuel Furet. Vous êtes avocat à Toulouse, ancien bâtonnier. On vous écoute.
Oui, bonjour Monsieur Demorand, bonjour Monsieur le Ministre. Moi je vais apporter un petit peu de contradiction, j'ai l'impression qu'on se donne beaucoup de satisfaction, mais moi aujourd'hui, depuis longtemps, et je crois que c'est la même chose pour les magistrats comme pour les avocats ou les greffiers, notre ministère de tutelle, c'est plus la place Vendôme, c'est vraiment Bercy, ou éventuellement le ministère de l'Intérieur, quand j'entends les derniers commentaires sur la détention et la manière dont on doit envisager la police. Moi, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est une équation simple, hein. On fait une énième consultation de la profession, alors que la réponse, on la connaît de toute date, et vous êtes un ancien professionnel, donc vous avez été confronté à ça aujourd'hui. Une simple augmentation des moyens matériels, et pas simplement du management, une simple augmentation des moyens humains, au lieu de chercher systématiquement des moyens d'économie qui aboutissent soit à une privatisation de la justice, ce qu'on entend aujourd'hui avec certaines réformes, soit un éloignement du justiciable. Il faut des moyens lourds, et il faut enfin que ce soit vous, notre ministre, qui parliez, et non Bercy à chaque fois.
Alors qu'est-ce que vous demandez, maître? Qu'est-ce que vous demandez à Éric Dupond-Moretti? Quelle question?
Mais moi, ce que je demande à notre ministre, c'est tout simplement aujourd'hui, lorsqu'on parle de budget, que tout soit fléché vers les moyens humains et matériels, et qu'on ne nous dise pas qu'il y a 8% d'augmentation, alors que l'on sait très bien que sur ces 8%, nous n'en avons pas effectivement bénéficié, puisqu'ils sont plus partis vers les prisons, et non vers les besoins que l'on a au quotidien, nos magistrats, nos greffiers et leur équipement.
Merci pour cette intervention. Éric Dupond-Moretti vous répond et on retourne au standard.
Monsieur le bâtonnier, je vais vous contredire, mais vous aimez la contradiction puisque vous êtes avocat. Mais d'abord, je vais vous dire qu'un morceau avalé n'a plus de saveur, puisque en 2017, l'aide juridictionnelle, donc ce qui est destiné aux avocats pour qu'ils puissent défendre les plus démunis, c'était 370 millions, on est passé à 615. Si ça vous semble rien, pardon. Deuxièmement, dans le projet de loi que j'ai porté, j'ai accéléré et accentué les processus de médiation pour que là encore, les avocats puissent intervenir dans le processus, j'allais dire, juridictionnel. J'ai réglé la question, je ne veux pas être trop technique, hein, les auditeurs m'en voudraient, mais de l'article 700, ce qui était une des revendications portées par Monsieur Perben. Mais je vais vous dire, 650 magistrats de plus... Et les greffiers de plus, 870, mais vous pensez que c'est rien? Et je vais vous faire une autre annonce qui a dû vous échapper, monsieur le bâtonnier. L'École nationale de la magistrature, l'année prochaine, il y aura une promotion de 380 auditeurs, 80 postes concours supplémentaires. La promotion sera la plus importante, entendez-moi bien, monsieur le bâtonnier, de l'histoire de l'École nationale de la magistrature. Et puis, j'ai envoyé en juridiction des gens bac plus 5, bac plus 6, que l'on a appelé les sucres rapides, pour traiter la petite délinquance et pour permettre le déstockage. Eh bien, je les pérennise, ceux que certains syndicalistes ont appelés avec dédain les contractuels. Ils seront maintenant les pérenne. Voilà, ça n'est pas rien.
Au standard, François, magistrat en région parisienne, j'y arrive. Bonjour et bienvenue, on vous écoute.
Bonjour, monsieur Demorand, bonjour madame Salané, bonjour monsieur le garde des Sceaux. Bon, je m'appelle pas vraiment François, mais j'ai un devoir de réserve. Juste vous dire, moi je suis pas syndiqué, je suis pas politisé. Ce que je sais, c'est que là, en ce moment, j'ai 80 délibérés que je dois rendre dans un délai plus que raisonnable, puisque les gens attendent juste de savoir s'ils seront expulsés. Ça c'est ma réalité, j'ai par ailleurs 1500 mesures de tutelle à gérer, j'ai par ailleurs des audiences à peu près chaque jour, donc voilà, et ça c'est ma réalité. Donc c'est pour ça que j'ai signé cette tribune, et encore une fois j'ai aucune intention de peser sur un quelconque débat politique, c'est pas mon problème.
Mais vous n'y arrivez plus aujourd'hui?
Ah non, on n'y arrive plus, non. non, et pour répondre à monsieur le garde des Sceaux, lorsque vous indiquiez tout à l'heure, donc pourquoi maintenant? Bah, peut-être aussi parce que aucun de vos prédécesseurs n'a eu la prétention, pardon de vous le dire, de dire qu'il avait réparé la justice. Nous, on se retrouve comme des imbéciles en bas à trimer dans des tribunaux feu d'instance, maintenant des tribunaux de proximité, pour essayer de faire tourner avec ce qu'on peut. Moi, par respect pour les justiciables, parce que vous parliez des états généraux qui étaient destination des justiciables, je pense que le cri de ce manifeste, c'est aussi un cri pour les justiciables. Moi, pour pouvoir rédiger ces 80 décisions, ben, j'y passerai mes soirées, j'y passerai mes week-ends, et mes gosses continueront à me dessiner. C'est quoi ça, papa? Eh ben, c'est papa avec sa valise de dossier. Voilà.
Merci François, merci pour cette intervention et ce témoignage que je transmets à Éric Dupond-Moretti.
Monsieur le juge François, j'ai tellement conscience de ce que vous dites que quand je suis arrivé à la chancellerie, j'ai eu envie de demander, et j'ai demandé à l'inspection générale de la justice, que l'on ait une situation claire, nette et précise sur les stocks. Et je l'ai dit, je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a en première instance un tiers de ces stocks qui vous pourrissent la vie. Il y a un tiers de ces stocks dus au manque de moyens, le reste à des questions d'ordre managérial notamment, clé de répartition, et 10% en appel. Donc moi, je prends mes responsabilités, je le dis, je veux que tout le monde prenne ses responsabilités, et qu'ensemble, dans la même barque, nous trouvions les solutions. Parce que j'ai évoqué ce que j'avais fait, j'ai évoqué la situation d'avant, et on pourra évoquer, bien sûr, la situation et la façon dont on en sort, parce que c'est ça qui est important. Et quand on a mis en place les états généraux de la justice, le président de la République à Poitiers, il dit « Aucun sujet n'est tabou ». Je rappelle que ces états généraux ont été demandés par les deux plus hauts magistrats de ce pays, que le comité est présidé par Monsieur Sauvé, et qu'il faut dire un certain nombre de choses. Et moi, je veux faire expertiser dans ce pays, grâce à l'outil dont j'ai parlé il y a quelques instants, le nombre exact de magistrats dont nous avons besoin. Un dernier mot, monsieur. J'ai réparé l'urgence. Et je le dis très clairement. Alors, un journal du sud de la France a titré « Le ministre de la Justice dit « j'ai réparé ». Il a refait un papier ensuite pour dire que c'était un titre qui ne ressemblait pas aux propos qui avaient été les miens. Mais j'ai réparé l'urgence, oui, je le dis, et les budgets permettent de le démontrer. Et ce que nous avons fait lundi, c'est un exercice de transparence et de vérité qui n'a jamais été fait. Devant toute la presse, et en particulier devant la presse qui s'intéresse à la chose judiciaire, et vous le savez, on a montré tous les chiffres. Et je souhaite évidemment que les choses soient dites avec objectivité.
Question d'Étienne sur l'appli France Inter. Éric Dupond-Moretti regrette-t-il ses propos quand il était avocat sur les magistrats, leur reprochant leur corporatisme effarant ?
C'est une autre question. J'ai expliqué un certain nombre de choses sur le corporatisme. On me l'a d'ailleurs beaucoup reproché. Ça n'est pas ce qui est en cause aujourd'hui. Pas du tout.
Vous ne regrettez pas ?
Ça n'est pas ce qui est en cause aujourd'hui. Pardonnez-moi, moi je veux bien qu'on fasse de la polémique, qu'on aille rechercher un propos qui a été tenu lorsque j'étais avocat.
C'était en sous-texte, hein, vous savez bien que c'est en sous-texte depuis votre nomination.
J'entends bien, j'ai dit qu'un corps qui niait son corporatisme niait son propre corps. C'est vrai pour les magistrats, c'est vrai pour tant d'autres, mais c'est franchement pas la question du jour.
Face aux accusations d'agression sexuelle à l'encontre de Nicolas Hulot, le président de la République s'est exprimé en Conseil des ministres. S'il encourage la libération de la parole des femmes, il dit aussi « nous ne voulons pas d'une société de l'inquisition ». Le mot « inquisition », vous le savez, Éric Dupond-Moretti, a fait réagir 14 femmes. Dans une tribune au Monde, elles écrivent « victimes de Nicolas Hulot et de PPDA, nous ne sommes pas les bourreaux ». En agitant la menace inquisitoriale, vous nous dites que nous sommes dangereuses, une pièce de plus dans la machine à terre. Fin de citation. Que leur dites-vous ce matin à ces femmes ?
D'abord que l'on se félicite, moi personnellement je me félicite que la parole soit libérée, elle l'est, nous le savons, nous le voyons tous les jours. Et puis, naturellement, il ne faut pas confondre la libération de la parole et le traitement de cette parole. Le traitement de cette parole, il doit être judiciaire. Vous savez d'ailleurs qu'à ce propos, j'ai demandé que même lorsque l'on est en présence de faits qui apparaissent à l'évidence prescrits, il faut qu'il y ait une enquête. Voilà ce que j'ai à dire sur cette question.
Ça veut dire quoi, nous ne voulons pas d'une société de l'inquisition ?
Écoutez, Madame Salamé, moi je ne commente pas ce qui est dit en Conseil des ministres. Ça c'est une chose, je crois que ça signifie en réalité que on ne souhaite pas, et personne ne le souhaite, pas vous d'ailleurs, et personne, que l'on fasse des procès dans la rue, sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision. Parce que les choses sont assez claires.
Dernière question, Emmanuel Macron s'exprime ce soir 2 heures à la télévision. Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot saisissent le CSA estimant qu'il y a une entorse à un accès équitable aux médias des candidats à la présidentielle. Comme Emmanuel Macron n'est pas candidat, ces 2 heures ne seront pas comptabilisées. N'y a-t-il pas là un problème d'équité, monsieur le ministre ?
Alors, comme j'imaginais que vous alliez me poser la question, je suis allé regarder, j'ai eu la curiosité. J'ai eu la curiosité, pardon, vous me permettrez de lire mes notes, d'aller regarder quand les présidents de la République qui se sont représentés à l'élection présidentielle ont annoncé leur candidature. Alors voilà ce que ça donne, hein, pardon pour ces chiffres. Pour le général de Gaulle, en 65, 31 jours.
Ah, on va faire toute la Ve République.
Ben, non mais vous allez voir que c'est intéressant. Puis vous allez voir surtout quelles ont été les réactions des uns et des autres à l'époque. Georges Pompidou, dans des circonstances que vous savez particulières, 32 jours. Valéry Giscard d'Estaing, 55. François Mitterrand, 32 jours. Avez-vous entendu M. Mélenchon, qui à l'époque n'était pas révolutionnaire, il était socialiste, dire quelque chose sur l'expression de M. Mitterrand? Nicolas Sarkozy, j'oublie Jacques Chirac, pardon, 69 jours. Nicolas Sarkozy, 85 jours. Je dis qu'on s'excite vite, Madame Léa Salamé, parce que nous sommes à 117 jours de l'élection présidentielle. Et je voudrais quand même vous rappeler une toute petite chose. Hier, sur mon compte Twitter, j'ai mis en ligne deux vidéos. Madame Pécresse vitupérant, nous sommes en 2021, sur ces questions, et Madame Pécresse disant à quel point il était normal que le président Nicolas Sarkozy s'exprime, c'était bien, à ce métro, à cette place...
Oui, oui, c'était sur France Inter. Oui. Donc, il n'y a pas de problème d'équité du tout.
Mais voilà. Quand on a fait 12 heures d'audience pour les Républicains, moi j'ai trouvé que c'était un exercice démocratique indispensable. Le président de la République est président de la République, il travaille, qu'il fasse le bilan, c'est bien la moindre des choses. Et s'agissant de Mme Pécresse, enfin pardon, je veux vous dire avec force qu'à force trahir sa parole, elle finit évidemment par se trahir elle-même. Regardez la vidéo de 2012, c'est édifiant. C'est le strict contraire de ce qu'elle dit aujourd'hui.
Allez, merci. Merci Éric Dupond-Moretti, merci monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, d'avoir été à notre micro ce matin. France Inter.